Bonjour à tous, merci d'écouter Fréquence Mistral. C'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire de ce magazine, les réserves de sang sont au plus bas. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'établissement français du sang sonne l'alerte. Face aux catastrophes climatiques, les formations d'architectes de l'urgence s'avèrent de plus en plus nécessaires. Le reportage d'Odile Frison dans ce magazine. Centre de formation dédié aux énergies renouvelables, l'éco-campus de Sainte-Tulle a accueilli les entreprises dans le cadre de la semaine du développement durable. L'agglomération Manosquine aménage une aire de repos dans la zone industrielle Saint-Maurice. Des élèves en hôtellerie-restauration de Sisteron participent aux vendanges à Châteauneuf-Val-Saint-Donat, une immersion au cœur d'une production viticole. Belle ambiance à la fois sérieuse et ludique à Manosque pour la fête de la science, reportage dans ce magazine. EFS alerte, les réserves de sang sont au plus bas.
C'est une réalité en Provence. Nous manquons de produits sanguins et les périodes de confinement comme la crise sanitaire ont eu un effet négatif sur les dons. L'établissement français du sang était autosuffisant à 70% avant la crise du Covid. Aujourd'hui, il est autosuffisant à 50%. L'EFS appelle à une mobilisation massive pendant les prochaines semaines. Responsable des sites 04 et 05 à l'EFS, Fabrice Roux, répond aux questions de Laura Giraud.
Fabrice Roux, vous êtes responsable site de l'EFS, l'établissement français du sang dans le 04 et le 05. On va rappeler ce qu'est l'établissement français du sang. Vous organisez de nombreuses collectes.
Oui, l'établissement français du sang est l'opérateur unique de la transfusion sanguine. Il a notamment en charge la distribution, bien sûr, des produits sanguins pour les établissements de santé, mais aussi toute la partie collecte et donc approvisionnement des stocks de produits sanguins.
À l'heure actuelle, on a énormément besoin de sang.
Nous sommes dans une situation qui est aujourd'hui assez critique. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la région PACA est une région qui est déficitaire en produits sanguins depuis très longtemps, depuis de nombreuses années. Mais se rajoutent d'autres problématiques aujourd'hui. Bien sûr, il y a eu toute la succession des périodes de la crise sanitaire, avec les périodes de confinement, avec les périodes donc de couvre-feu, puis plus récemment des périodes de vacances. Et puis également, on a une reprise de l'activité des centres de santé qui font que notre activité est en tension de façon assez forte. Par exemple, pour vous donner quelques chiffres, en début de semaine dernière, nous étions à moins de 80 000 poches de sang dans les stocks, alors qu'il faudrait être à 100 000 poches environ. Donc la région PACA a des difficultés pour approvisionner des stocks. Il faut absolument qu'il y ait une mobilisation générale, je dirais, pour que les gens se motivent et viennent donner sur les collectes, viennent se présenter sur toutes les collectes que nous organisons au niveau de la région, mais même au niveau national. Et pour cela, c'est très simple, il suffit de se connecter sur le site de l'établissement français du sang pour repérer les endroits où il y a des collectes organisées et puis, si possible, prendre un rendez-vous pour se présenter sur ces collectes.
Oui, parce qu'à l'heure actuelle, vous organisez donc des collectes tous les jours.
Tous les jours, toute l'année, on organise des collectes de sang. Alors, il y a les collectes, ce qu'on appelle les collectes mobiles dans tous les villages, toutes les villes. Par exemple, aujourd'hui, nous étions à Château-Arnoux, demain, nous serons à Embrun, ensuite, nous serons à la Roche-des-Arnaux, dans les jours qui viennent, nous allons être à Digne, etc., etc. Donc, tous les jours, bien sûr, mais là, je parlais du 0504, mais c'est pour ça que j'invite tous les auditeurs à se connecter sur le site de l'établissement français du sang pour voir au niveau de la région et plus largement tous les lieux de collecte mobile qui sont organisés. Et puis, il y a aussi les maisons du don, ce qu'on appelle les maisons du don, qui sont ouvertes tous les jours dans les grandes villes, Marseille, Aix-en-Provence, Nice, Toulon, Avignon, etc., etc. Parce que nous sommes dans cette situation critique. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de produit de substitution au don de sang. Le sang artificiel, ça n'existe pas. Aujourd'hui, quand une transfusion sanguine est nécessaire, il faut absolument qu'il y ait des donneurs, donc que les stocks soient à niveau pour permettre de répondre aux besoins. Ça peut être les besoins de l'urgence médicale, accident de la route, accident du travail, grosse hémorragie. Ça peut être également le besoin pour des malades, dans les traitements de chimiothérapie, par exemple, où les produits sanguins sont importants, ils sont nécessaires. Ou ça peut être également pour fabriquer des médicaments, puisque le plasma est utilisé dans la fabrication de nombreux médicaments. Donc tous les jours, en fait, il faudrait, dans la région PACA, avoir 1000 poches de sang. Et nous sommes bien, bien loin du compte aujourd'hui. Au niveau national, le besoin, c'est 10 000 poches par jour. Et de la même façon, nous sommes en difficulté sur l'ensemble de ces régions. Nous avons quand même une organisation nationale avec des régions qui sont solidaires entre elles. Pour la région PACA, comme je vous le disais, nous sommes déficitaires depuis de nombreuses années. Nous avons d'autres régions qui, habituellement, peuvent nous aider à maintenir nos stocks à niveau. Mais en ce moment, elles aussi sont en difficulté. Et donc, elles ont des difficultés pour nous approvisionner. Ces derniers jours, vous avez pu le constater, il y a des problèmes d'intempéries. Certaines collectes ont été annulées suite à ces problèmes d'intempéries. Donc, franchement, il est très, très important, je le rappelle, de se mobiliser et de nous rejoindre sur un lieu de collecte.
Les architectes de l'urgence, nécessité absolue de formation.
Il y a tout juste un an, la tempête Alex ravageait les vallées de la Vésubie, la Roya et la Tinée. Les dégâts, notamment les destructions, ont été catastrophiques. Et hélas, les changements climatiques nous réservent des épisodes violents plus fréquents. Arnaud Réau, vice-président du Conseil de l'Ordre régional des architectes en PACA, le confirme. Le Conseil de l'Ordre propose une formation à des architectes volontaires afin de savoir réagir vite dans les situations d'urgence. Le Conseil de l'Ordre des architectes décide de constituer un groupe d'architectes formés pour intervenir dans les zones sinistrées en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Son objectif, avoir une belle couverture territoriale de personnes formées dans l'architecture d'urgence. La première session de cette formation se tiendra à Nice en décembre 2021. Arnaud Réau répond aux questions d'Odile Frison.
On va revenir sur cette tempête Alex qui a ravagé les vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée.
Quand la tempête est arrivée, en fait, j'ai proposé au Conseil qu'on se réunisse et qu'on essaie de faire une action. Tout le monde a voté collectivement pour. Au début, en toute honnêteté, on ne savait pas trop sous quel format. C'est-à-dire que l'idée, c'était de faire un appel à volontaires architectes pour aller filer un coup de main dans les vallées sans trop savoir sous quelle forme. On a fait un appel à volontaires qui a réuni 76 réponses. Et en communiquant en fait cet appel à volontaires, on s'est mis en lien avec la DDTM 06, donc la préfecture des Alpes-Maritimes, pour leur dire que voilà, on était en train de réunir des volontaires et que si on pouvait les aider sur quoi que ce soit, on se rendait dispo, on était en train de réunir les gens. Ce à quoi en fait ils nous répondent en nous disant que ça les intéresse parce qu'ils sont en train de monter une cellule expérimentale qu'ils ont appelée la cellule bâtimentaire, qui était en fait une cellule qui répondait à une problématique assez simple mais très très complexe à gérer, qui était que en fait aucune des vallées n'avait de moyen de communication après la tempête. C'est-à-dire qu'ils avaient aucune idée de ce qui se passait sur place et donc aucune idée de l'état des lieux, des constructions qui étaient abîmées, pas abîmées, des gens qui avaient disparu, pas disparu. Donc ils avaient vraiment aucune relation avec les trois vallées. Donc du coup, ils ont lancé cette cellule bâtimentaire qui en fait avait pour objet d'aller faire le relevé dans les trois vallées de l'état existant des bâtiments. Comme on avait nos volontaires, on s'est dit sur le moment, il faut qu'on les forme à ce qu'on appelle l'architecture d'urgence. L'architecture d'urgence, ça vient d'une fondation qui est basée à Amiens, qui s'appelle la Fondation des architectes de l'urgence, qui n'est pas une association, mais qui est une fondation qui est installée à Amiens depuis une vingtaine d'années, qui ont l'habitude d'intervenir sur les territoires sinistrés, mais à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'ils étaient à Tahiti, ils étaient à Beyrouth, là, il n'y a pas longtemps, ils étaient en Allemagne et en Belgique. Et en fait, ils arrivent pour accompagner les services d'État sur justement la mise en place de diagnostics initiaux, la réflexion avec les sinistrés sur la façon de reconstruire, en tout cas dans l'urgence, les éléments un peu structurants, c'est-à-dire tous les éléments comme les hôpitaux, les écoles, tout ce qui va être équipement structurant des communes vraiment impactées. Et puis après, réfléchir avec les sinistrés sur la reconstruction de tout ce qui est plutôt traditionnel, c'est-à-dire l'habitation en général. Et d'amener, en tout cas, dans cette situation d'urgence, parce que là, on parle vraiment d'architecture d'urgence, c'est-à-dire trouver une solution temporelle, le temps que la situation s'améliore et que les projets se relancent, les moyens financiers arrivent, que les assurances aient fait leur boulot d'expertise. Donc voilà, c'est vraiment cette temporalité.
Pour une reconstruction rapide pour mettre les personnes à l'abri.
C'est ça. Mais en même temps, dans ce cadre de réflexion, une remise en état rapide, il y a aussi, comme on est architecte, une réflexion sur le plus long terme. C'est-à-dire que ce qu'on reconstruit, par exemple, là je prends un exemple, si une école a pris un tsunami ou un séisme ou une inondation, il y a cette idée de « il faut reconstruire une école », la première réflexion c'est évidemment de se dire « est-ce que du coup on la reconstruit là ou est-ce qu'on la reconstruit pas ailleurs ?» À partir de là, on vient proposer une architecture d'urgence, c'est-à-dire une construction rapide qu'on peut mettre en place assez facilement et rapidement, mais dans le lieu le plus adapté, le temps qu'il y ait un appel à projet, que les moyens se mettent vraiment en place. C'est vraiment l'architecture de la temporalité de la crise, en fait, l'architecture d'urgence.
Est-ce que vous pensez que le métier d'architecte est remis en question, ou en tout cas, les méthodes doivent changer par rapport au changement climatique, justement? Est-ce que...
Enfin, moi, personnellement, j'en suis convaincu, puisque ce sont des sujets sur lesquels je travaille au quotidien. À l'ordre, la réflexion qu'on a eue justement avec cette action et la nouvelle action qu'on est en train de mettre en place là en ce moment, évidemment, de toute façon, il va falloir penser la façon dont on fait nos territoires de façon radicalement différente. Et il va falloir adapter nos modes de construction avec à la fois les matériaux, mais surtout pour les rendre plus cohérents aux milieux naturels sur lesquels on est installé. Puisque la problématique qu'on a, c'est la grande expansion urbaine qu'on a connue dans les 100 dernières années. C'est quelquefois un peu octroyer le droit de prendre de l'espace sur des emprises qui étaient en fait des espaces d'éléments naturels, tels que les fleuves, tels que les coteaux de montagne ou ceci, cela. Et donc maintenant, effectivement, la question, c'est de dire comment on refait un peu corps avec ces éléments naturels et comment on vient penser une architecture qui soit un peu plus cohérente avec le territoire. Et donc là, effectivement, ça re-questionne énormément à la fois la formation de l'architecte, la formation initiale et toute la pratique en général dans nos quotidiens, oui. On est vraiment à une sorte de moment charnière, un peu dans l'histoire, où les architectes, là, doivent faire un peu plus corps avec l'élément naturel. Alors, si vous voulez, je peux rebondir sur ce qu'on met en place, puisque donc, on a fait ça sur le moment. Puis, donc, on a fait, donc, l'état des lieux avec les DTM, on est allé sur place, on a fait le relevé des maisons, des équipements, donc, on était en binôme trinôme avec des ingénieurs et des pompiers pour visiter les trois vallées. On a fait ça dans les 10 jours qu'ont suivi la catastrophe. Ce qui a permis à l'État d'avoir un état des lieux de ce qui s'était passé pendant l'événement. Suite à ça, on s'est dit à l'ordre que ça serait bien, justement dans ce cadre du changement climatique et de bouleversement de nos pratiques, que l'on doit accompagner ou en tout cas aider les architectes à être de plus en plus prêts dans ces questions-là. Et donc c'est pour ça que là, pour la date anniversaire du 2 octobre, on vient de faire un partenariat donc avec la Fondation des architectes de l'urgence qui est à Amiens pour mettre en place une formation que l'on prend à charge en tant que conseiller régional pour former le maximum d'architectes de la région à ces questions-là. L'idée étant qu'on ait toujours un noyau d'architectes qui soit prêt dans notre région à réagir J+1 à la prochaine catastrophe.
Donc là, vous avez fait un appel.
Là, on vient de faire un appel. Voilà.
Sur le terrain, c'est ça?
Alors, il y avait ceux qui étaient déjà sur le terrain. Puis en fait, on a fait un appel à tous les architectes de la région. En région PACA, on a entre 2800 et 2900 parce que le tableau se vide et se remplit tous les mois. En gros, on a, on va dire, 2850 architectes sur le territoire de la région PACA. On a envoyé cet appel à formation aux 2800 architectes. Pour le moment, on en a quasiment 80 qui nous ont répondu intéressés pour faire cette formation spécifique qui, dans l'idée, hein, c'est vraiment à la prochaine catastrophe, on appelle ces architectes formés pour pouvoir aller sur le terrain.
Et alors, 80 réponses, ça veut dire que c'est trop par rapport à ce que vous pouvez former, non?
On a une première session de 30 personnes à Nice qui est calée, là. Et l'année prochaine, on a une autre session au printemps, mais elle n'est pas encore fixée en termes de nombre. Donc, on va essayer de faire entrer le maximum de personnes dans la formation. Et de toute façon, l'idée, ça serait d'avoir une formation sur cette thématique-là une fois par an pour que tous les ans, il y ait de nouveau 30 à 40 architectes qui soient de nouveau formés et qu'à la fin, on ait vraiment un grand nombre de professionnels qui soient formés à cette thématique.
Combien de jours de formation ou combien d'heures de formation?
C'est 4 jours de formation, 3 jours consécutifs. Et une journée en visio. C'est pour ça que c'est quand même un engagement, parce qu'il faut déjà prendre 4 jours de formation de suite sur un calendrier d'architecte. En général, c'est quand même assez compliqué. L'idée, c'est justement, puisque c'est la Fondation des architectes de l'urgence qui vient nous faire cette formation-là, d'acter justement un partenariat entre le Conseil régional et la Fondation des architectes de l'urgence, qu'on ira directement expérimenter dans les vallées sur place pour pouvoir mettre en place ce partenariat de la formation annuelle sur la thématique de l'urgence. En fait, les services de l'État ont énormément travaillé avec les collectivités locales pour remettre en place tout ce qui est réseau d'infrastructures, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de problématiques sur tout ce qui était réseau routier. La vallée de la Roya, pour aller attendre, qui est la ville la plus au loin dans la vallée, en fait, est complètement réouverte depuis à peine 3 ou 4 semaines. Donc il y a eu un gros boulot qui a été fait parce que les routes étaient sectionnées en centaines de morceaux différents. Et en plus, comme on est sur des vallées qui sont vraiment très très encaissées, c'est sur des ouvrages de génie civil, donc assez compliqué à mettre en œuvre. Donc là, en fait, les services de l'État ont beaucoup travaillé sur tout ce qui est réseau, alimentation en eau, électricité, réseau viaire, réseau routier, restructuration des lignes de rivière. Et en ce moment, il y a la réflexion justement de la prospective avec chaque commune où les services de l'État, accompagnés d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes, d'environnementalistes, réfléchissent à comment réorganiser ces territoires sinistrés pour à la fois permettre de proposer des solutions qui vont pouvoir préserver le nombre d'habitants dans les vallées, mais aussi de permettre de recréer une activité, parce que c'est ça le plus important en fait, c'est que les gens ne partent pas des vallées, recréer une activité sur place en trouvant à ces zones-là les zones sécurisées pour installer les activités des vallées. Donc là, c'est le gros travail qu'en ce moment sur justement l'approche résiliente de l'organisation du territoire.
Le développement durable passe par l'éco-campus.
L'établissement de Sainte-Tulle a proposé une journée découverte pour les professionnels dans le cadre de la Semaine du développement durable. Ce campus de formation dédié à la transition énergétique a ouvert ses 1200 m² de plateau technique aux PME du secteur industriel afin de visiter l'établissement dont le bâtiment à énergie positive annonce les missions. Sur ces plateaux techniques de pointe, thermique, chaud et froid, électricité, chimie, distribution d'eau potable, fibre optique et des modules Praxibat sur la ventilation performante et étanchéité à l'air, tous participent à une gestion efficace des ressources naturelles et des énergies renouvelables. Quant aux offres de formation, elles s'adressent aussi bien aux apprentis et apprenants qu'à des professionnels via la formation continue. Car sur des temps de 2 à 4 jours, les programmes de développement des compétences et des performances sont nombreux. Chaudière à gaz, pompe à chaleur, air et eau, photovoltaïque, éolienne et bien sûr climatisation. L'éco-campus porte bien son nom. Daniel Margot préside la CCI 04 qui gère l'éco-campus. Daniel Margot, c'est la semaine du développement durable et l'éco-campus de Sainte-Tulle est bien sûr mobilisé.
Tout à fait. Effectivement, c'est la semaine du développement durable, mais qui sera aussi prolongée par la semaine de l'industrie. Et ces deux semaines sont des semaines qui permettent de mettre en avant l'industrie française qui a souffert depuis la crise Covid. Et par rapport au plan de relance, on a trouvé tout à fait légitime que la CCIT gèle une journée, cette journée, porte ouverte à l'éco-campus pour évoquer l'industrie de demain.
On va rappeler ce qu'est l'éco-campus, c'est un joyau évidemment, mais en même temps qui est à la disposition des entreprises, des collectivités aussi.
Oui, tout à fait. Alors cet éco-campus, il est tourné vers les énergies renouvelables, hein, on le sait, on en parle très souvent. Et cette semaine du développement durable, cette semaine de l'industrie, est faite pour faire rencontrer les industriels qui ne connaissent pas encore l'éco-campus, pour pouvoir flécher leur formation, soit leur formation initiale, soit leur formation continue, et aborder auprès des futurs collaborateurs les formations possibles sur ce site.
Quelles sont les formations, quelques-unes, que vous pouvez citer?
Alors, on a bien évidemment la fibre, on a bien évidemment tout ce qui est sur l'éolien, on est sur des masters, hein, on est sur des bacs plus 2 à minimum. Ce sont des formations qui ont eu du mal, hein, on le reconnaît, hein, à se mettre en place dans les premières années, parce que l'éco-campus était à l'avant-garde de ce qui devait se passer. Mais notre territoire qui est tourné vers les énergies renouvelables, l'hydraulique, les photovoltaïques et demain matin, on l'espère, l'hydrogène, a toute sa place dans cet écosystème.
Ce n'est pas un hasard si vous parlez d'hydrogène.
Ce n'est pas un hasard, l'hydrogène avance bien. J'ai eu la chance de participer sous le pilotage de la préfecture de Madame la Préfète à un tour de table autour de géométhane et du projet hydrogène qui est composé de 3 briques, une brique démonstrateur, une brique de massification et une brique de maturité. On va pas trahir de secret, mais les deux premières briques semblent bien engagées.
On va suivre ça avec grand intérêt. Ici, à Sainte-Tulle, est-ce que l'endroit n'est pas un petit peu excentré par rapport à la région ?
Non, pas du tout. Aujourd'hui, grâce au Covid, je vais dire, pour une fois, on dit grâce au Covid, la partie, tout ce qui est visio, tout ce qui est travail, télétravail, répartition des tâches hors physique, ça n'oblige pas forcément à être en présentiel en permanence. Non, il n'est pas éloigné, si éloigné de ça, du bassin de Fos, de Marseille, de Aix-en-Provence, grâce à l'autoroute. Non, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à cette notion d'excentrage aujourd'hui.
Il y a une opportunité également pour les entreprises comme pour les collectivités avec le plan de relance.
Oui, alors sur ce plan de relance, bon, les entreprises du 04 en ont largement bénéficié puisque 25% du plan de relance territoire d'industrie a été fléché de la somme globale, dont la région a bénéficié. 25% a été fléché vers les Alpes de Haute-Provence alors qu'on pèse que 3% du PIB. Donc on a relativement bien travaillé tous ensemble. Et le deuxième volet concernant les collectivités par rapport à votre question, oui, il y a bien sûr la modernisation et la réhabilitation énergétique de tous les bâtiments, on va dire communaux et d'État, qui est en branle là et qui rentre tout à fait dans les 7 milliards du plan de relance énergétique du gouvernement.
Cette journée à l'éco-campus, vous allez accueillir, je suppose, des entreprises, des collectivités, des donneurs d'ordre ?
Elle est fléchée, elle est archi fléchée vers les entreprises, aussi bien en amont qu'en aval. En amont, on va recevoir beaucoup de bureaux d'études qui tournent autour des énergies, que ce soit pour les industries ou les collectivités. Beaucoup de bureaux d'études vont passer et découvrir les plateaux techniques et ce qu'on propose en termes de formation et de nouveaux outils. Et ensuite, les entreprises, les gros donneurs d'ordre, on peut citer Engie, on peut citer EDF, on peut citer Total, on peut citer Air Liquide. Ils vont, et bien sûr tout ce qui tourne autour d'ITER, ils sont prévus qu'ils passent toute la journée ici pour découvrir nos plateaux techniques afin de les promouvoir ensuite dans leur entreprise.
On se rend compte effectivement que l'éco-campus est au croisement de beaucoup d'intérêts locaux et nationaux. Et ça, c'est une bonne chose.
Ouais, ça y est. Je pense que on n'est pas en train de décoller comme la fusée Ariane, mais j'aime bien l'image avec le Concorde, même si le Concorde n'existe plus. J'ai adoré cet avion dans son système de décollage. On peut lier l'image du Concorde à l'éco-campus maintenant.
Manosque, la zone Saint-Maurice entend soigner son accueil.
C'est la plus importante zone industrielle de Manosque où se trouvent des entreprises de taille. L'Occitane, Proman, STM Nervi, Veolia, les ateliers municipaux et bien d'autres encore. Des centaines de salariés y travaillent et des dizaines de livraisons y affluent chaque jour. Et depuis des années, un petit parking sans emplacement matérialisé avec une unique table de camping sur quelques mètres carrés de verdure compose l'aire de repos de la place de l'Anca. Autrement dit, pas très fonctionnel pour les poids lourds et leurs chauffeurs dont certains passent leur nuit sur place en attendant l'ouverture des entreprises. D'ici la fin de l'année, ces désagréments seront désormais rangés du côté des souvenirs, car l'agglomération manosquine investit pour soigner cette entrée de zone. 6 places poids lourds, plus 13 pour des véhicules légers, un local toilette et douche, mais aussi un distributeur automatique de pizza, pizza de Manosque bien sûr, dont l'usine est située à quelques centaines de mètres, et des emplacements pour 2 food trucks vont changer la donne. Un accueil digne et des services qui devraient être très appréciés sur Saint-Maurice. Durance Luberon-Verdon Agglomération met 610 000 euros dans l'affaire et une coopération entre l'Aglo, la CCI 04 et l'APAM, Association des parcs d'activité de Manosque, est bien engagée. Christelle Toussaint préside l'APAM et dit sa satisfaction pour cet équipement. Christelle Toussaint, vous présidez l'APAM, c'est une association ?
Oui, c'est un regroupement de l'association des entrepreneurs de la zone Saint-Maurice et des entrepreneurs de la zone Saint-Joseph au départ, qui maintenant représente donc l'ensemble des parcs d'activité de Manosque, y compris Précombo. Nous sommes d'abord, avant tout, la première force économique du département et nous représentons 5400 salariés sur l'ensemble des zones. Et nous essayons de défendre au mieux les intérêts des entreprises face aux EPCI.
Vous êtes vous-même chef d'entreprise et évidemment vous avez appelé de vos voeux ces travaux ici à la place de l'Anca.
J'avais avant la présidence de la zone Saint-Maurice et depuis plus d'une dizaine d'années, nous nous battons contre vents et marées pour que nos transporteurs qui sont consignés le week-end, voire le soir dans la semaine, sur la place de l'Ancan en zone Saint-Maurice, puissent avoir, par la moindre décence, des toilettes et des douches pour pouvoir passer une nuit à peu près digne de ce nom. Et enfin, grâce à la DLVA et au travail qui a été entrepris, nous avons obtenu ces travaux qui vont commencer à partir de la semaine prochaine et qui vont permettre à nos transporteurs de pouvoir vivre dignement sur notre beau territoire.
Avec également une enveloppe de 610 000 euros, donc c'est conséquent. Mais ça veut dire aussi que votre association va travailler avec des donneurs d'ordre comme la DLVA et la ville.
Oui, beaucoup. Nous sommes soutenus par la DLVA et par la Chambre de commerce qui nous ont permis d'obtenir une personne qui travaille pour nous là en ce moment pendant 4 mois à temps complet, qui regroupe toutes les entreprises, parce que les temps changent, d'année en année ça change, qui essaye de recenser toutes les entreprises des zones, donc de Précombeau, de Saint-Joseph, de Saint-Maurice, et surtout qui essaye de répertorier tout le foncier disponible, aussi bien à la location qu'à la vente, et voire en demande.
Les travaux devraient se terminer à la fin de cette année, en 2021. Est-ce que ça va perturber un petit peu le fonctionnement de la zone Saint-Maurice ?
La zone Saint-Maurice, elle est quand même assez facile. Hein. On a 2 lignes droites, une le long de l'autoroute, une au milieu. Oui, on va tourner une fois dans un sens, une fois dans l'autre, mais je ne pense pas que ça fasse de gros détours et que ça embête qui que ce soit, peut-être quelques transporteurs, mais je pense que tout le monde va pouvoir gérer ça correctement.
Il y aura bientôt des toilettes, il y aura 2 food trucks, il y aura un distributeur de pizza. Ça sera un endroit plutôt sympathique pour les gens qui travaillent ici même.
C'est magnifique. Manosque, la plus belle ville de Provence, et la zone Saint-Maurice, la plus accueillante.
Quand des lycéens Sisteronnais se font vendangeurs.
Lundi dernier, des élèves du lycée hôtelier Paul Arène de Sisteron se sont rendus au domaine des bergeries de Haute-Provence sur les hauteurs de Châteauneuf-Val-Saint-Donat. Pour la fin des vendanges, les propriétaires du domaine viticole invitaient les élèves en hôtellerie et restauration pour leur faire découvrir l'élaboration des différents vins produits par l'entreprise, blanc, rosé et rouge. L'occasion également de découvrir la technique d'effarouchement réalisée par des rapaces, une façon encore peu répandue pour protéger les vignes. Au micro de Chris Alessandri, des détails sur cette journée particulière avec Christian Cross, enseignant au lycée hôtelier, puis Amandine Pujol, falconnière, Héloïse et Jean-Luc Monteil, propriétaires du domaine des bergeries, et également les réactions très pertinentes des élèves de première STHR du lycée hôtelier Sisteronnais.
Christian Cross, quelle est cette action menée actuellement sur le site avec le lycée hôtelier Paul Arène ?
Eh bien écoutez, donc comme chaque année quand le temps le permet, on vient donc avec une classe de 12, 15, 20, 24 élèves, ça dépend, faire les vendanges. L'idée c'est un petit peu pour les élèves d'avoir une info concernant le vin. Et on est dans l'imaginaire du vin au vert, en fait. Hein. Donc là, le matin, il vendange. Ensuite, il voit dans le chai, là, avec Jean-Yves Montel, la vinification. Et par la suite, il peut en parler facilement au client. L'idée, c'est ça. Carrément, la difficulté dans le vin, c'est trouver les mots, les bons mots. Et quand on a vu comment on partait du jus de raisin pour arriver à ce vin rouge, blanc, rosé que fait le domaine des bergeries, ça va permettre à l'élève de mieux le vendre et d'avoir les bons mots en termes de vocabulaire commercial pour que le client trouve le bon accord, mais les vins aussi. Là, ils sont 15 et donc globalement, ils sont intéressés, d'autant plus que Jean-Luc Montet, il leur a permis de faire du pigeage, de travailler sur des débourbages. Ils ont mis la main à la pâte dans l'élaboration de leur futur vin.
Amandine Pujol, comment est-ce qu'on peut vous définir ? Quelle est votre fonction ?
Falconnière.
C'est-à-dire ?
Chasseuse au vol, je fais de la chasse avec des oiseaux de proie. Je les accompagne dans leur action de chasse naturelle.
Alors aujourd'hui, ce que vous faites, c'est très pédagogique. Il y a cette rencontre avec les élèves. De quelle façon vous les abordez ? Quels sont les thèmes que vous allez présenter ?
Alors je vais leur parler du métier, bien sûr, de fauconnier ou de falconnière, mais aussi de l'effarouchement qui se développe en France. Donc le métier d'effaroucheur, eh bien, c'est d'utiliser des oiseaux de proie mois pour éloigner, en tout cas dissuader des oiseaux qui potentiellement sont nuisibles pour différentes raisons dans le lieu. Donc là, ici, on est sur les vignes. On va faire voler les rapaces pour créer un sentiment d'insécurité chez les oiseaux qui viennent se nourrir du raisin quand il est mûr. Voilà. Donc il n'y a pas forcément d'oiseaux qui sont pris, qui sont tués par le rapace. On est vraiment plus dans de la dissuasion en créant ce climat d'insécurité. Donc les oiseaux vont se dire, ok, il y a un rapace qui est là, qui a élu domicile ici, on est sur son territoire, donc maintenant il va falloir faire attention. Ils vont être beaucoup moins à l'aise et beaucoup moins actifs sur les vignes.
Voilà. Est-ce que cette technique est connue du grand public en ce qui concerne les vignobles, la récolte du vin?
Je dirais que ça commence. Ça commence à être répandu, ça commence à être connu, mais on est vraiment au début de tout ça. Hein. Ça va avec la tendance écologique où on cherche tout ce qui pourrait être plus sain pour notre environnement.
Quel est le lien qu'il y a entre vous et le rapace?
C'est subtil, ouais. On n'est pas sur les mêmes liens et sur la même interaction qu'avec un chat ou un chien. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est des oiseaux qui sont moins dans l'interaction physique. Hein,
ils sont moins affectueux.
Voilà, c'est pas quelque chose qui fait partie de leur état naturel entre eux. Hein, ils vont pas se faire des câlins, y a pas ça. Mais le lien, ça va être plus sur la confiance et l'entraide.
L'ambiance, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous appréhendez cette journée? Comment elle se passe?
Franchement, ça va. L'ambiance est bien, c'est cosy.
Non, mais c'est vrai qu'on apprend quand même des nouvelles choses. Et voilà, très intéressant.
Ouais, très intéressant, on a appris beaucoup de choses.
Du style, est-ce que vous avez appris, par exemple, que vous ne connaissiez pas encore au niveau du vin, au niveau des vignobles?
On a appris, je crois que 100% des choses qu'on nous a dit, on ne le savait pas presque. Donc voilà, on a appris beaucoup de choses.
Moi, je suis là pour ma première année, donc je ne connais rien. Et j'apprends et je suis très content.
C'est ce qui vous a fait plaisir, alors, aujourd'hui, là?
L'aigle, parce que c'est impressionnant. Et à peu près tout, à vrai dire, c'est intéressant. J'en ferai peut-être pas ma vocation, mais c'est bien à apprendre, en tout cas.
Le fait de savoir d'où vient le vin, c'est important pour vous?
Je bois pas de vin, donc non, mais je comprends.
Dans le métier, je veux dire, dans le métier.
Ah, dans le métier, ouais, c'est quand même important, je pense.
Moi, c'est très important parce que je connais un peu dans le domaine, vu qu'on a déjà fait un an. Et souvent, des clients qui s'y connaissent pas demandent ce qu'on leur conseille ou quoi. Et du coup, je trouve ça très intéressant de savoir d'où il vient. Ou par exemple, s'il est plus fruité, doux, enfin, voilà.
Est-ce que vous aviez imaginé un contexte comme ça, quand il y a tout ce travail en amont?
Non, j'avais pas imaginé tout ça. Au début, c'est très impressionnant quand même. Mais franchement, je suis contente de l'apprendre.
Moi, je trouve que c'est très très bien qu'on propose à des jeunes de notre âge qu'on puisse voir comment le vin est fait, qu'on puisse aller à l'usine et qu'ils nous proposent de voir les lieux, de faire un petit tour. C'est très très bien pour qu'on puisse se mettre dans le bain du vin. Vu que dans notre filière, on va en avoir besoin de ces connaissances-là, du coup, c'est très très bien.
Qu'est-ce qui vous a marqué, disons, sur aller cette matinée là pour l'instant?
Ce qui m'a marqué, il n'y a pas quelque chose vraiment qui m'a marqué, mais parce que on peut du coup voir comment est fait le vin, d'où il vient. Comme ça, on peut être aussi sûr que le produit de la région est un bon produit. Là, on a pu vérifier que les raisins étaient bien frais, c'était propre, les locaux sont bien maintenus. Ça donne envie de boire du vin.
Par exemple, je suis un client, j'ai envie de boire du vin. Qu'est-ce que vous allez me dire alors pour me placer dans le contexte, peut-être?
Je vous dirais d'aller faire un petit tour dans les locaux. Comme ça, vous pouvez vous assurer que le vin est de bonne qualité. Et comme ça, vous êtes sûr que vous ne consommez pas quelque chose de mauvaise qualité. Et voilà.
Du coup, c'est bien pratique de s'informer sur le vin et tout ça. On a pu voir une belle vigne, de belles vignes. La technique de la buse, c'est très écologique.
Déjà, premièrement, on a quand même réussi à apprendre énormément de choses sur le vin, sur comment réussir à transformer du coup la grappe de raisin directement en vin embouteillé. Et tout ce processus du coup de la transformation du sucre en alcool grâce à la levure, on a appris énormément de choses grâce à ça, les outils qu'on peut utiliser. On a aussi goûté justement du jus de raisin qui était assez sucré aussi. On a goûté un jus qui était en fermentation. On aura réussi à goûter et à voir un petit peu toutes les étapes du vin. Et du coup, ouais, au niveau pédagogique, ceci peut être très intéressant.
Alors, il est bon ce vin?
Le vin, il est un peu fruité. Il a une belle robe, on va dire ça.
Héloïse Massot et Jean-Luc Monteil, vous accueillez les élèves du lycée Paul Arène, la section hôtellerie, pour nous présenter un tout petit peu le site, le domaine des bergeries sur lequel nous sommes actuellement.
Donc c'est un tout jeune domaine situé à 560 mètres d'altitude entre les communes de Montfort et de Châteauneuf-Saint-Donat. On domine les pénitents des mets. 16 hectares, 6 de vignes, 33 000 pieds de vignes plantées, 11 cépages. Avec deux influences, une influence italienne, une influence corse.
Et une technique qui vous est particulière sur le domaine?
Effectivement, ici on a une particularité, c'est qu'on utilise des amphores qui viennent d'Italie, chez un maître de la terre cuite qui s'appelle Tava. Le gros avantage de l'amphore, contrairement au bois, c'est que le bois va apporter le côté boisé. L'amphore, lui, par contre, de par sa forme, va permettre au dépôt dans le vin pendant l'élevage d'être toujours en mouvement. Donc ça permet d'extraire vraiment la quintessence du cépage et du terroir sans avoir l'apport boisé de la barrique.
Ici, donc, au domaine des bergeries d'Haute-Provence, on est le premier site onotouristique du département. On a rénové deux bergeries, donc le Bastidon, qui est une bergerie pour deux personnes, et l'Oustaou, qui peut accueillir jusqu'à quatre personnes, deux chambres, deux salles de bain individuelles. Beaucoup viennent passer une semaine ou un week-end ici au domaine.
Pourquoi cette volonté de s'ouvrir aux élèves, ce côté pédagogique que vous avez aujourd'hui amené sur cette rencontre?
Ouais, parce que quand je les vois, je me vois à leur âge. Ce que je leur ai expliqué ce matin, c'est qu'ils font un métier qui est assez extraordinaire parce que c'est des métiers de contact. Et quand vous êtes ouvert aux autres, le monde de l'entreprise vous est également ouvert.
Et la ville de Manosque devint la capitale de la science.
Pendant trois jours, la cité de Giono a célébré les matières scientifiques. Des outils agricoles à la réalité virtuelle et de la chimie à la fission nucléaire, la Salosco Manosco a dignement participé à la 30e fête de la science. Sur les stands, entreprises et associations ont présenté leur activité aux visiteurs, dont de très nombreux scolaires sur deux journées. De quoi donner des idées à des jeunes qui ont pu aussi admirer les réalisations étonnantes de collégiens et lycéens. De la bonne graine de scientifiques et l'accueil des élèves du lycée Martin Brett a également été apprécié. De belles coopérations ont été nécessaires pour cet événement dont la coordination a été assurée par les Petits Débrouillards. Je vous propose d'écouter Yann Sanchez des Petits Débrouillards de Manosque, puis Véronique Chojnaki, conseillère municipale à Manosque et également enseignante. Yann Sanchez, les Petits Débrouillards sont sur la brèche pour cette fête de la science.
Oui, toujours investi, comme chaque année depuis plus d'une dizaine d'années.
Qu'est-ce qu'on trouve exactement dans ces fêtes?
C'est une ode finalement à la culture scientifique, aux sciences dans l'esprit d'origine, de culture de la bidouille, de se poser des questions, de prendre plaisir à se poser des questions sur son environnement, sur son quotidien, sur tout ce qui nous entoure.
Vous dites culture de la bidouille, ça tombe bien, vous présidez aux destinées des Petits Débrouillards. Expliquez-nous ce que sont ces Petits Débrouillards.
Alors les Petits Débrouillards sont une association, en fait c'est un réseau national et même international de gens qui sont attentifs à pouvoir démocratiser le plus possible finalement cette culture-là, la rendre la plus ouverte et la plus accessible possible auprès de tous, et notamment à l'occasion de la fête de la science sur des villages des sciences où on essaie surtout de montrer cet aspect ludique, comme beaucoup l'ont connu finalement, par le plaisir de faire des expériences, des petites réactions et finalement découvrir des choses aussi par soi-même, par l'expérimentation.
Beaucoup de stands, des stands comme l'AMAIF, le CEA, le CPIE, beaucoup d'associations aussi qui sont présentes. Comment est-ce que vous avez organisé ça, puisque c'est vous qui êtes la cheville ouvrière de cette fête de la science?
Finalement, on fait beaucoup que rassembler, même s'il y a une part, bien sûr, d'organisation. C'est des acteurs, pour la majorité, qui sont investis depuis des années dans cette fête-là. Donc finalement, on donne juste un petit coup de pouce pour tous se rassembler. Et tout le monde vient bien volontiers de pouvoir partager finalement un moment dans l'année ce plaisir et cet amour des sciences.
Et puis il y a deux journées qui sont consacrées et dédiées aux scolaires. Alors là, on est vraiment dans le côté pédagogique et attirer des vocations.
Oui, et justement aussi dans un peu une approche un peu différente de celle qu'on voit dans les salles de classe. En tout cas, on essaye surtout de leur donner à faire, à voir, à tester des choses parfois surprenantes et essayer de les marquer dans le temps, en fait, comme ça l'a été pour moi, pour d'autres acteurs aussi de la culture scientifique et de la fête de la science, où on a découvert finalement, après 30 ans de la fête de la science, comme les élèves qui viennent ici, sur d'autres villages des sciences, il y a 30 ans.
Alors à vos côtés, Véronique Chojnaki, vous êtes à la fois représentante de la ville de Manosque, vous êtes élue à la ville, mais vous êtes aussi enseignante. On vous a senti séduite par cette fête de la science?
totalement. Moi, ça fait 30 ans que je participe à cette fête de la science. Et c'est vrai que tous les ans, pour moi, c'est une émotion nouvelle, surtout de voir ces jeunes toujours émerveillés devant tous ces dispositifs qui leur sont mis à portée de main. Et en fait, c'est vraiment les scientifiques qui descendent vers le public et qui se mettent au niveau des jeunes pour leur expliquer. Et ça, de voir des jeunes émerveillés, c'est plus que n'importe quel cours que je pourrais faire dans mon établissement. Donc vraiment, c'est formidable.
Cette disponibilité, effectivement, des scientifiques, c'est important, mais en même temps, la possibilité de vadrouiller, entre guillemets, entre chaque stand, et puis de pouvoir assister à des démonstrations et évidemment à des explications.
Oui, et puis c'est très varié, c'est-à-dire qu'ils peuvent passer d'une science biologique au numérique, à l'informatique, puis après revenir sur de la mécanique, regarder les structures, comment on peut détecter des fosses sous-marines. Tout ça, ils le découvrent en même temps et ils se rendent compte que les moyens, finalement, sont à peu près toujours la même chose. J'observe, j'expérimente, je teste et puis je fais des conclusions. Donc, et ça, c'est vraiment le principe de l'expérience. C'est vraiment, j'analyse ensuite mes résultats et ils y arrivent. Ils sont contents de toucher. Ils ont du matériel qu'ils ne verront jamais ailleurs, qu'ils leur sont présentés. Et là, c'est magique pour eux, vraiment magique.
Un des intervenants tout à l'heure disait que la science permet de lutter contre l'obscurantisme.
Oui, oui, plus on est cultivé, et que cette culture soit scientifique ou pas, mais en science, c'est vrai que ça perd. Il y a la zététique, la notion du doute. Je doute, je ne suis pas sûre que la Terre soit ronde. Pour moi, elle est plate, puisque quand je marche, c'est plat, et pourtant, elle est ronde. Et il y a des observations qui nous le prouvent, et c'est ça qui amène aux jeunes à sortir de cette théorie du platisme et d'être dans cette théorie de la Terre est ronde. Et effectivement, il y a des faits, c'est établi. Et la science ne trompe pas. On ne peut pas duper le public avec la science.
Pendant 3 jours, Manos, qui est la capitale de la science.
Exactement. Je l'ai indiqué, c'était la ville centre de la culture scientifique. Et pour reprendre un des slogans du maire de Manos, que nous sommes le centre du monde. Pendant 3 jours, nous sommes le centre du monde de la culture scientifique pour nos jeunes du territoire, de la ville, voire du département.
C'est la fin de ce magazine. Merci François. La semaine prochaine pour un nouveau Force 7.
Oui Olivier, et avec un reportage assez exceptionnel, c'est tout simplement l'interview de Richard Galliano et de René Frény qui ont donné un oratorio sur les chemins noirs, le premier roman de René Frény. C'était à Manosque un événement magnifique et l'interview évidemment de ces deux personnalités sera écoutée en intégralité la semaine prochaine. Merci Olivier, bonne semaine, à bientôt.